Nous avons partagé la semaine dernière un sujet qui doit être pris au sérieux, à savoir lequel ? Que Dieu règne. Vous êtes d'accord ? Vous êtes toujours d'accord ? Dieu règne-t-il toujours aujourd'hui ? Oui. Nous avons partagé certains textes bibliques pour expliquer pourquoi Dieu régnait, comment Dieu règne. Mais voilà. Nous chantons régulièrement un cantique, montez-le s'il vous plaît jusqu'à la fin, presque jusqu'à la fin, les quatre dernières phrases. Nous chantons un cantique, et chaque fois que je chante cette dernière strophe, je suis vraiment interpellé, chaque fois. Ça fait des mois et des mois que quand on le chante, je suis interpellé. Il est clair que Dieu règne, il règne, c'est une chose acquise, que vous soyez d'accord ou pas. Dieu règne. Mais voilà, Dieu veut que nous aussi, nous régnions avec lui. Par exemple, il est dit, soyez reconnaissants que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. Ça, c'est la volonté de Dieu. Que la paix de Dieu règne. Ça veut dire que la paix de Dieu domine tout votre être. Dans la Bible, le mot dominer, c'est pas, on n'a rien à voir avec la dictature. Le mot dominer, c'est ce qui est supérieur, qui contrôle notre être. Alors on va lire un texte dans Romains au chapitre 5. C'est important que nous comprenions, parce que c'est très bien joli de dire « je sais que Dieu règne, maintenant je l'ai compris, que Dieu règne sur toutes choses ». Mais ça ne suffit pas. Il faut que nous aussi, à notre tour, nous puissions le vivre. Et comment vivre le règne de Christ en nous ? Vous croyez qu'on va le vivre parce qu'on chante la quatrième strophe du cantique ce cantique-ci qui est projeté parce qu'on chante « Règne en moi » Non, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Dans Romains au chapitre 5, vous pouvez enlever le transparent, monsieur Grondin. Dans Romains au chapitre 5, au verset 17, il est justement fait mention de cette vérité. Vous savez, tous les cantiques que nous chantons, comme les cantiques de la chorale, ne sont que des textes bibliques qui sont mis en musique. Romains chapitre 5, verset 17. C'est la deuxième partie du verset qui nous intéresse, mais j'aimerais que vous soyez attentifs, parce que beaucoup de chrétiens souffrent, beaucoup de chrétiens sont dominés par les attaques de l'ennemi, beaucoup de chrétiens sont écrasés, frustrés, ça peut arriver épisodiquement dans une épreuve, ça peut arriver parce qu'on s'est fait piéger, mais des chrétiens vivent continuellement dans la défaite, et vous comprenez bien que quelqu'un s'en réjouit de cela, mais ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Je viens de le dire, quand Dieu dit que la paix règne, c'est pas pour faire les beaux, c'est pour que nous puissions vivre cette vie de témoignage qui glorifiera le Seigneur. Lisons, on va faire plusieurs lectures, je vous conseille d'ailleurs de les noter pour pouvoir les méditer dans vos prochains cultes. Romains chapitre 5, verset 17, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, regardez bien, je le lis doucement, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul ? Je répète, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Voilà la volonté de Dieu. C'était important, je crois, que nous partagions ce que nous avons vu dimanche dernier. Mais ça serait pas complet que nous réalisions que Dieu règne si nous-mêmes nous ne régnions pas avec lui. Beaucoup de chrétiens sont heureux de savoir que nous régnerons avec lui dans l'éternité. Par exemple, lisez avec moi dans l'Apocalypse au chapitre 20. Dans l'Apocalypse, il est parlé du millénium, de ce moment où Jésus va revenir sur la terre après les 7 ans de tribulation, de grande tribulation, après la bataille d'Armageddon, Jésus va revenir et il va régner. Il sera roi de toute la terre, nous régnerons avec lui. Apocalypse chapitre 20, la fin du verset 4, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Verset 6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Est-ce que ce programme vous intéresse ? Est-ce que vous savez que vous allez régner avec Dieu pendant 1000 ans ? C'est bien ? Ça vous fait pas plus d'effet que ça? Bon, peut-être. Apocalypse 22, verset 5. Là, c'est pas pour les 1000 ans, c'est pour l'éternité. Regardez, verset 5 du chapitre 22. Ils n'auront plus de nuit, il n'y aura pas besoin de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Ça va faire long l'affaire. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce programme vous intéresse? Est-ce que vous vous rendez compte? Vous le savez que c'est vrai, on va régner avec lui. Lorsqu'il reviendra nous chercher, nous allons régner avec lui. La Bible dit que c'est même nous, les chrétiens, qui jugerons les anges déçus. Déchus, bien entendu. Ils doivent être déçus aussi d'avoir abandonné le Seigneur. Mes frères, nous allons régner avec le Seigneur pour l'éternité entière. Ça peut vous suffire, mais je ne crois pas que ça suffit au Seigneur. Je crois que Dieu veut que sur la terre, déjà, nous vivions dans le règne. Que nous régnions avec lui, comme quand la paix règne. Combien nous sommes heureux quand la paix règne. Parce que Dieu est satisfait. Pourquoi? Parce que quand elle règne, la paix, on peut la procurer aux autres. Heureux ceux qui procurent la paix. Voyez? Dieu est intéressé parce que nous sommes heureux et Dieu veut le bonheur de ses enfants comme nous, nous voulons le bonheur de nos enfants. Donc, pour l'éternité, pour le millénium, c'est une chose acquise. On, entre guillemets, on subira cette grande et immense bénédiction. Mais aujourd'hui, tant que le Seigneur n'est pas encore revenu, il nous appelle, le Seigneur, à entrer dans les œuvres qu'il a préparées à l'avance. Et vous croyez que les œuvres qu'il a préparées à l'avance, on va les vivre comme ça? Parce que Dieu a préparé des œuvres, on va automatiquement entrer dans ces œuvres? Non. Il faut que, individuellement et collectivement, nous recevions. Il faut que Dieu puisse faire quelque chose. Oui, vous le croyez que Dieu a des œuvres préparées? Que même si les temps sont difficiles, que ça va vraiment très mal, est-ce que vous croyez qu'on peut croire qu'encore que Dieu a des projets qui sont bons? Des projets d'avenir et d'espérance? Est-ce que vous êtes dans ce cursus ou est-ce que vous êtes dans un projet découragé? Voilà, il faut subir, voilà, ça va mal, les temps sont difficiles, ben il faut faire avec. C'est comme ça, on est dans la spirale, le monde est entraîné dans les angoisses, la crainte, la peur, etc. Ben l'Église doit peut-être être sur le côté et suivre. Non, mes frères et sœurs, les chrétiens, ils doivent régner. Tant que nous sommes sur la terre, nous avons notre place. Il est certain que parfois, dans l'affliction, nous disons « Seigneur, reviens, reviens me chercher ». Vous avez remarqué que cette prière ne marche pas beaucoup. Donc, c'est bien la preuve que Dieu veut que nous restions avec lui sur la terre. Il désire nous faire grâce. Vous le croyez? Que la vie avec Dieu est une vie de grâce? Ce n'est pas écrit « Soyez fortifiés par la grâce de Dieu ». C'est le sujet qu'on va voir cet après-midi. Cet après-midi, on verra l'importance que Dieu désire nous faire grâce. Mes frères, Jésus l'a dit. D'ailleurs, relisons. On va y aller. On va lire le verset qui nous intéresse. Mais franchement, on devrait prendre tout le contexte. Monsieur Olé, hier, nous a enseigné et réenseigné l'importance de ne pas prendre un verset au détriment de tout le contexte. Dans Matthieu, au chapitre 6, nous connaissons ce verset par cœur parce que nous le chantons à juste titre. Dans Matthieu, au chapitre 6, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Et il est ajouté « Et toutes choses vous seront données par-dessus. » Vous le croyez, ça encore? Et vous le croyez vraiment, mes frères et sœurs? Mais il faudrait lire tout le contexte. Il faudrait lire tout le contexte. Quelle est la première chose que vous cherchez? Répondez-vous à vous-même, ne dites pas haute voix, s'il vous plaît. Ça pourrait peut-être déranger. Mais quelle est la première chose que vous cherchez dans votre vie? Vous devez vous répondre. Est-ce que c'est vraiment le royaume de Dieu? Pas la bénédiction, attention. Est-ce que je cherche Dieu? Est-ce que je cherche la prospérité? Est-ce que Dieu peut faire prospérer une église? Est-ce que Dieu peut faire prospérer un chrétien? On va le voir. Il est hors de question de chercher la prospérité. D'ailleurs, dans ce texte, regardez. Dans ce chapitre, on va lire un verset qui nous intéresse, verset 19. Voyez? Parce que dans toute chose, on pourrait dire, ah, je vais prospérer. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il est écrit? Verset 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Bon, vous êtes d'accord? Amassez-vous des trésors dans le ciel, dit le verset 20. Donc, mais ce chapitre, en fin de compte, nous encourage à chercher le Seigneur, Mais si nous cherchons le Seigneur pour chercher le Seigneur, toute chose nous sera donnée, nous serons données. Vous êtes d'accord? Le royaume de Dieu fonctionne avec certaines lois. Le monde fonctionne avec ses lois. Des lois et des comportements bizarres. Dans le monde, tout est disproportionné, tout est complètement fou. Des pompiers, par exemple. Des pompiers, on le voit chaque année, en France, il meurt quelques pompiers. Des pompiers sont payés avec des salaires très 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 modestes. Et pourtant, ils risquent leur vie. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on voit combien, par contre, sont payés certains joueurs de foot, des millions d'euros par an, pour divertir des gens. Les pompiers, ils font pas ça pour se divertir. Pourquoi je vous donne cet exemple? Pour vous expliquer qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume du monde, le royaume des ténèbres, et il y a le royaume de Dieu. Le royaume du monde, il est complètement malade. Je viens de vous donner un exemple. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Hein? Bon, on paye des gens des millions d'euros pour divertir des gens devant la télé. Et on pourrait faire comme ça un jeu de comparaison pour mieux comprendre la misère dans laquelle le monde est en train d'évoluer. On comprend pourquoi Jésus va revenir. Mais le royaume de Dieu, lui, c'est sérieux. Nous sommes là, nous avons chanté « Si je me tais, j'apprendrai ». Il y a des choses que j'ai besoin d'apprendre ou de réapprendre. Ce chapitre 6 de Matthieu nous indique combien Dieu s'occupera de nous dans tous les domaines si nous nous occupons de lui, si nous nous occupons de son royaume, si nous cherchons notre place dans le royaume. Ce n'est pas parce que je suis dans une église que j'ai trouvé ma place dans le royaume. Alors Dieu veut que nous régnions. C'est quelque chose de sérieux, mes frères et sœurs. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais expérimenté cette grâce. Ils sont là, ils sont sauvés, ça c'est clair. Ils aiment Jésus. Ils ont été bénis, ils savent qu'ils sont pardonnés. Ils ont le grand privilège d'appeler Dieu mon Père. Mais ils ne règnent pas. Et l'Église est appauvrie. Le royaume de Dieu est appauvri. Bien des choses devraient se produire, elles ne peuvent pas se produire. C'est comme sur un bateau, si c'était une galère, si personne rame, on ne peut pas avancer. Si les chrétiens ne règnent pas, le royaume de Dieu n'avance pas. C'est vrai que Dieu veut nous faire prospérer. Et même l'apôtre Jean dira à quelqu'un, « Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » On voit bien que Dieu n'est pas du tout contre la prospérité, à condition que notre âme prospère. Parce que si nous prospérons sans prospérer spirituellement, nous allons devenir des égoïstes. Le problème, il n'est pas dans la prospérité. C'est un sujet sur lequel le Seigneur m'interpelle un petit peu. Hier en particulier, hier après-midi, j'étais interpellé par ce sujet. Il ne faut pas que les chrétiens soient résignés à cause de ce qui est en train de se passer. Des chrétiens attendent, comme disait Jérémie dans l'introduction des chants, c'est une chose d'attendre, on attend passivement, ou alors on s'attend à Dieu. Vous voyez, c'est pas la même chose. Bon, vous connaissez cette veuve dans l'Ancien Testament qui se résignait à mourir. Lorsqu'elle a rencontré Élie, ou lorsque Dieu a amené Élie vers cette femme, elle était résignée à mourir. Elle représente les chrétiens qui attendent la fin. On attend la fin, on verra bien. On verra bien, c'est la fin, on nous le rabâche régulièrement. Jésus va revenir, c'est la fin, ça va mal, ça ira de plus en plus mal. Il y aura l'apostasie dans l'église, alléluia. Enfin, vous voyez, les gens sont là, battus, résignés. Et cette femme, lorsque le prophète l'a rencontrée, alors qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vais mourir, je fais un dernier repas et je vais mourir. Alors on peut sourire ou pas, j'en sais rien, mais beaucoup de chrétiens sont là, ils attendent. Je ne crois pas que Dieu nous laisse sur la terre pour que nous vivions dans cet état d'esprit. Je le dis et j'aime le dire, on a droit à nos 5 minutes de cafard par jour, mais ça devrait s'arrêter là. On devrait de suite réagir. Et Dieu va s'adresser à cette femme, il va lui dire par Élie, « Ne crains pas, rentre dans ta maison. » Et le Seigneur va lui demander quelque chose qui paraît un petit peu bizarre, il va lui demander au travers du prophète, voilà, elle n'a rien, elle est en train de dépenser son dernier petit monceau de farine pour faire un repas, et voilà que le pasteur arrive, il lui dit non, tu rentres, et avec le peu de farine qui te reste, tu me prépares à moi, d'abord, un gâteau. T'as compris? Nous, le pasteur, on l'aurait mis dehors. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Allez, dites-moi, qu'est-ce que vous auriez fait? On en reparlera. Prépare-moi d'abord un gâteau. Et vous savez la suite, comment Dieu a béni cette femme. Ça nous enseigne qu'on peut passer d'une situation de résignation à l'abondance, qu'on peut passer à une situation de crainte, à une situation de victoire, ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que on a obéi au Seigneur qui dit « moi d'abord ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette parole de Jésus « moi d'abord » ? Vous êtes d'accord que Dieu puisse s'approcher de vous et vous dire « moi d'abord » ? Vous l'acceptez ? Tous ? Monsieur Delabre aussi ? C'est bien. Vous êtes tous d'accord ? Bon, c'est bien, on est bien parti. Prépare-moi d'abord. Dieu aimait cette femme. Est-ce que Dieu vous aime ? Si vous êtes résigné, même si ça ne va pas, même si vous vivez dans la crainte, ne vous sentez pas réprimandé, sentez-vous quand même honoré. Dieu vous aime, Dieu aimait cette femme. Ce n'est pas parce qu'on est blasé, parce qu'on est résigné, qu'on a de la crainte, que Dieu ne nous aime pas. L'amour de Dieu, vous le savez, est inconditionnel. Dieu aimait cette femme, Dieu nous aime, il sait quelle est la valeur que nous avons à ses yeux. Est-ce que vous vous rendez compte, déjà dans une petite assemblée comme la nôtre, ce que l'on peut faire pour le Seigneur ? Cette semaine, j'ai eu de merveilleux témoignages qui sont en fin de compte les conséquences de ce que l'Église vit. Et je vous assure, ça réjouit le cœur. Vraiment. Dieu, peut-être, ne veut pas que nous sachions tout. Mais je peux vous assurer que l'Assemblée travaille et fait un certain travail de mille et une manières. Dieu veut bénir et Dieu peut nous combler. Alors quand on met, par exemple, Matthieu 6 avec 2 Corinthiens 9. Ce qui est important, Monsieur Olé, est-ce que j'applique bien ce que vous enseignez. 2 Corinthiens chapitre 9. Eh bien écoutez, vous savez ce qu'on va faire ? On va le lire en entier ce chapitre. Voilà. Je vais pratiquer l'herméneutique. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 1er. C'est un chapitre. Moi je vous avoue que je n'ose pas en parler. De l'argent. Mais je crois que le Seigneur me demande surtout de ne pas avoir peur de prêcher sur ce sujet, parce que c'est pour vous bénir. Alors, on le lit lentement, on le lit, lisons-le comme si nous le lisions pour la première fois. Voilà, c'est par rapport aux offrandes qu'ils avaient faites. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, ce que moi je pourrais vous dire pour le Niger. Je pourrais vous dire la même chose pour les milliers d'euros que vous envoyez au Niger. En déclarant que la CAI est prête depuis l'année dernière et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à votre confusion pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Vous voyez, je résume, mais c'est un petit peu ce qui se passe, que lorsque monsieur et madame Bordeneuve arrivent, des fois, on a quelques milliers d'euros pour les aider à bâtir un projet. C'est exactement la même chose. On continue. Verset 6. Sachez-le. Donc, c'est une chose qu'il faut apprendre. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne, comme il l'a résolu, en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Et je peux vous dire qu'au Niger, ils rendent grâce à Dieu pour Saint-Agne, même s'ils ne sont jamais venus. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile et de Christ, et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Amen. C'est un sujet délicat, mais il est clair que la grâce de Dieu, c'est pour guérir les malades. La grâce de Dieu, c'est pour sauver les perdus, c'est pour restaurer le faible, mais c'est également pour bénir matériellement, à condition qu'on ne soit pas accaparé par la prospérité, mais que l'on soit préoccupé par le Seigneur Dieu. Et à partir de cela, on comprend, et c'est extrêmement important ce que l'on vient de lire, car hier, quand je préparais cette prédication, le Seigneur m'a remis à l'ordre et m'a dit « mais n'aie pas peur de prêcher sur ces choses ». Parce que je vous avoue que j'ai eu la crainte, parce que c'est très 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 délicat de parler de ça, comme chacun le comprend. Et il m'est revenu ce témoignage que nous avons vécu, Isabelle et moi, lorsqu'on est arrivé à Groyer, c'est une église, je vous le dis parce que je l'ai eu à cœur quand je me suis préparé, quand nous sommes arrivés dans l'église de Groyer, cette église était en panne. Non seulement il n'y avait pas d'argent pour nous payer, bon, mais ça on l'avait accepté parce qu'on savait que Dieu pourvoyait. Mais non seulement l'église devait de l'argent au pasteur qui m'avait précédé. On est arrivé, le trésorier nous a informés. Bon. Et cette église dépendait de la région de la mission intérieure depuis plusieurs années. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Le premier trimestre est passé, on recevait l'échec de la mission intérieure, et moi je vous avoue que ça me peinait. Non pas d'être aidé, mais je me disais quand même, je crois qu'il y a une autre opportunité. Et un dimanche, alors que j'étais en train de prêcher, ça faisait 4 mois que j'étais à Groyer, peut-être que Sylvie Fagé s'en souvient, un dimanche, j'ai dit, écoutez, ça fait des années qu'on nous aide, eh bien ça va changer. À la place de recevoir de l'argent, c'est nous qu'on va le donner. Et je regardais quand même dans le coin de l'œil le trésorier qui était devant. Et j'ai dit, voilà, à partir du mois prochain, on va donner. 100 francs à l'action missionnaire, 100 francs à l'époque, il y avait l'action sociale à mission, 50 francs à qui vous appelle. Le trésorier, je voyais qu'il ouvrait de plus en plus, vraiment, il s'intéressait de plus en plus à la prédication. Et à la sortie, il m'a dit, écoutez, c'est bien ça, mais quand même. Et les chrétiens, je vous assure, écoutez bien, le mois d'après, nous n'avions plus besoin de l'action, de l'aide de la mission intérieure. Le trésorier, tellement réjoui, m'augmentait à l'époque de 1500 francs, et je peux vous dire qu'on a vu la différence. Et on mettait de l'argent de côté, et 3 ans et demi après, on a pu acheter une église dont on était propriétaire. Et je suis convaincu que c'est un principe spirituel à condition que ça ne soit pas fait dans le but de prospérer personnellement. L'apôtre Paul nous enseigne que Dieu peut nous donner l'abondance. On l'a lu. Jésus l'a même dit, dans tous les domaines, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait la vie en abondance. Est-ce que Dieu vous a béni? Est-ce que certains, vous pourriez passer à ma place à dire, oui, Dieu m'a béni, je vis dans l'abondance? Plusieurs pourraient le dire, certainement. Parce que Dieu peut, on l'a lu, vous relirez ce chapitre, ça ne peut pas être plus clair. La condition, c'est de chercher Dieu et non pas la prospérité. Et c'est cette obéissance joyeuse, il le dit l'apôtre Paul, sans contrainte, avec joie, qui fait que ça plaît à Dieu. L'obéissance est en accord avec la révélation biblique. L'obéissance ne doit pas être contrainte, on ne doit pas mettre la pression. Moi, je n'ai pas dit au greffier, toi, c'est comme ça, et moi, je veux être payé, moi, je veux... Non, je l'avais à cœur, parce qu'on l'avait expérimenté, comme plusieurs parmi nous avons expérimenté, que quand on fait ce que Dieu nous demande, le Seigneur, il nous bénit. Il y aurait bien sûr beaucoup de témoignages à donner. Donc, cette affaire, c'est quelque chose de sérieux. Mais hier, quand je me suis préparé, je vous assure, moi, je ne voulais pas. C'est un sujet que je n'aime pas aborder. Je n'aime pas l'aborder parce que ça a fait plus de mal dans les églises que du bien d'aborder la situation pécuniaire. Donc, quelque part, j'ai peur d'aborder ce sujet. Mais hier, le Seigneur m'a dit, n'aie pas peur de prêcher sur ce sujet. J'ai des œuvres préparées à l'avance et pour faire les œuvres que je veux faire, même si c'est dans le domaine spirituel, il faut que ça se concrétise dans le domaine matériel. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est évident. Dieu a des projets. Je voulais lire le psaume 46 quand il est dit que Dieu a un fleuve. Est-ce que vous savez que Dieu a un fleuve? On le chante. Et il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est tiré. Lisons-le. Je vois qu'on a quand même le temps. Regardez, on a du temps encore, c'est très bien. Dans le psaume 46, Dieu nous indique qu'il est notre refuge, mais qu'il n'est pas que notre refuge, qu'il est notre provision. C'est bien d'être réfugié à l'abri du froid, mais c'est encore mieux de savoir que là où nous sommes réfugiés, il y a l'abondance de Dieu. Regardez 46, le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Il y en a qui le croient, ça ? Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Ça correspond bien à ce qui se passe. Et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Verset 5. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, ça on le vérifie. Les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Dieu, mes frères et sœurs, a un fleuve. La veuve de Sarepta, il fallait qu'elle sache que Dieu a un fleuve et que s'il veut que l'huile ne diminue pas, l'huile ne diminuera pas. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, il est dit, lorsqu'il va y avoir tous ces fléaux, Dieu dira à l'ange, ne touche pas à l'huile et au vin. Ça correspond donc au royaume de Dieu, et je le crois vraiment que les chrétiens y sont gardés. Que son nom soit béni. Notre frère, M. Blanc, a pris un texte lorsqu'il a présenté la Sainte Cène, qu'il a sur mes notes. Béni soit le Père, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a bénis. Ces bénédictions doivent se concrétiser. Il ne faut pas qu'elles soient virtuelle. Il ne faut pas qu'elle soit juste dans le domaine de l'espérance. J'aimerais, j'espère que Dieu va me bénir. Elles doivent être reçues. Et je reviens à mon verset d'introduction. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Nous avons reçu le salut. Vous l'avez reçu le salut ? À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir, c'est-à-dire une autorité spirituelle. Un chrétien, il ne devient pas enfant de Dieu. Un chrétien, il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a une autorité spirituelle. Il est béni. C'est plus un enfant des ténèbres. Il a une autorité. Il doit régner. Il doit dominer. Et tout ça, ça passe à côté de beaucoup de frères et de sœurs. Nous avons reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais il ne faut pas recevoir que le salut. Il faut continuer à recevoir la grâce. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront dans la vie. Pourquoi la Bible nous compare à des vases ? Parce qu'un vase y reçoit. Dieu nous compare à des enfants, quelle grâce. Dieu nous compare à des ouvriers, des serviteurs, etc., des laboureurs, des athlètes. Mais c'est important de savoir que Dieu nous compare à des vases. Un vase y reçoit, et si le vase se remplit, il se déverse. C'est comme la paix. Vous recevez la paix, et vous procurez la paix. Vous devez savoir d'ailleurs, si vous procurez la paix. Parce qu'il y a des chrétiens, ce n'est pas la paix qui procure. Et le Seigneur nous demande de faire des efforts dans la Bible. De faire des efforts, pourquoi ? Pour que les vertus soient en nous. Il y a des efforts à faire pour recevoir. Allons avec moi dans 2 Pierre au chapitre 1er. Dans 2 Pierre au chapitre 1er, il y a un enseignement extraordinaire parce que c'est un enseignement équilibré. 2 Pierre chapitre 1er, voilà, moi c'est un des textes que j'aime le plus d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il est plein d'équilibre. Et je crois que ce qui glorifie Dieu, c'est quand les chrétiens sont équilibrés. C'est pas bien ça ? Hein ? Que nous puissions donner ce témoignage. Dans ce texte, 2 Pierre 1, verset 5, Dieu nous dit, justement, à cause de ce que je suis en train de vous enseigner, de participer à la nature divine, c'est la même chose dit différemment, il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas, il est aveugle, donc il voit rien. Voyez, mes frères et sœurs, il y a des efforts que l'on doit fournir pour recevoir de Dieu ses vertus. On en a besoin. À des moments, on a plus besoin de patience. À des moments, on a plus besoin de recevoir davantage de foi. À des moments, on a besoin davantage d'affectif. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on se trouve dans des situations où on doit exprimer de l'amour. Et le Seigneur dit, mais faites tous vos efforts pour recevoir ces choses. Vous participerez à la nature divine. Et si vous les recevez en abondance, ça va rejaillir. C'est ce que Jésus dit lorsqu'il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de ceux qui devaient recevoir le Saint-Esprit. Donc, lorsqu'un chrétien s'approche de Dieu, il peut le faire d'une manière complètement intellectuelle, et, ou le faire comme la chorale l'a chanté, plonger les regards dans la parole. Voilà, le Seigneur le dit, ne vous bornez pas à écouter. Il a dit, mais plongez vos regards dans la parole. Merci la chorale, ça correspond exactement. De faire des efforts. Est-ce que vous aimez faire des efforts ? Oui ? Et peut-être vous n'avez pas soif, parce que je viens de citer un verset où des fleuves d'eau vive peuvent se déverser, mais il y a une condition. Si quelqu'un a soif, et on n'a pas honte de dire tout à nouveau, Seigneur, suscite la soif. Je n'ai pas envie de lire, je n'ai pas envie de prier, bon, ce n'est pas la peine de le chanter peut-être tout le temps. Mais devant le Seigneur, est-ce qu'on peut lui dire, Seigneur, suscite la soif ? Est-ce qu'on peut lui dire au Seigneur ? Est-ce que vous croyez que Dieu il peut l'exaucer cette prière ? Si vous vous approchez, tu te rends compte, Seigneur, hier j'ai été repris, je me rends compte que mon vase est vide, à la place du procuré, la paix, je stresse les gens. Il y a des gens comme ça. Seigneur, je suis sec, suscite la soif. Et vous allez plonger vos regards dans la parole, vous allez être attentif aux choses spirituelles. Et lorsque la soif, elle est déclenchée, eh bien, on le sait, on parlait hier de ce verset, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Je suis attentif, donc quelqu'un qui est attentif, il reçoit, c'est la même chose, mais dit différemment. Je suis attentif, oh ce verset, oui, quand la terre est bouleversée, je suis sans crainte, c'est pour moi. Cette semaine, les informations m'ont paniqué, combien je regrette. Non, c'est pas les informations qui doivent m'impressionner, c'est ta puissance, Seigneur, qui doit m'impressionner. Et je veux entrer dans ton règne, je veux régner, je ne veux plus chanter ce cantique si je ne me fais pas des efforts pour commencer à régner, peut-être déjà avec la paix, que déjà elle règne. Vous ferez beaucoup de bien autour de vous. Alors, avons-nous soif ? Peut-être c'est la soif, peut-être c'est plus grave, peut-être c'est le péché. Et il y a des versets qui disent par exemple, repentez-vous et convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement. Peut-être que ça va vraiment pas. Peut-être que c'est la résignation. J'en ai parlé tout à l'heure, cette pauvre veuve. Elle faisait partie du peuple de Dieu. Et comment ? Peut-être c'est la crainte. Peut-être c'est, on verra cet après-midi, cet homme-là qui s'est éloigné et pourtant le roi voulait le bénir. Peut-être que c'est un péché. Eh bien, repentez-vous. Repentez-vous, c'est pas une tare que de se repentir. C'est une bénédiction de se repentir. Vous vous souvenez les fois où vous vous êtes repenti ? Ça a mal tourné ? Ou ça a plutôt bien tourné quand vous vous êtes repenti. La repentance, c'est une bénédiction. Repentez-vous afin que des temps de rafraîchissement. Je veux refaire, je m'adresse aux hommes. Il y a des hommes que Dieu veut appeler dans l'Église. Croyez-moi, pour amener la bénédiction sur les autres, pour être ces vases, ces fleuves, ce rafraîchissement. Qu'est-ce qu'il sort de votre vie et de la mienne, bien sûr. Le Seigneur, il le sait. Ce matin, il s'approche de vous, comme il s'approchait des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Vous vous rappelez sur le chemin d'Emmaüs, le jour de la résurrection, le jour qui aurait dû être, le jour qui est le plus glorieux de l'histoire du monde. C'est pas la Révolution française, le jour le glorieux. C'est le jour où Jésus est ressuscité. Et il y avait deux disciples qui partaient à Emmaüs, tout penauds. On espérait que, on croyait que, on pensait que. Et voilà, tout d'un coup, qui c'est qui les rejoint ? Qui c'est qui les rejoint ? Toi, Seigneur, t'as du temps pour rejoindre deux chrétiens comme ça ? Vous croyez que Jésus a du temps pour vous ce matin ? Pour vous bénir ? Ouais. Mes frères et sœurs, et il les rejoint, il les laisse parler, parce qu'à des moments, ça fait du bien de vider son sac. C'est pas vrai ? Ça fait pas du bien, des fois, de dire ce qu'on a à dire. Bah, puis après, le Seigneur dit, bon, stop. Bon, maintenant, je vais vous expliquer. Et commençant par les Écritures, c'est toujours avec la parole de Dieu. Il leur expliqua les choses. Et quand Jésus paraissait vouloir aller plus loin, il dit non, tu restes avec nous. Est-ce qu'après le culte, vous continuerez à dire, Seigneur, reste avec moi. Reste avec moi. Et pendant qu'ils partageaient le pain, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et ils sont partis joyeux. Ils avaient reçu le courage, la grâce de continuer. Dieu ne nous abandonne pas lorsque ça ne va pas. Nous, des fois, on catalogue vite les gens. Oh, celui-là, il ne va pas bien. Vous croyez que parce qu'il ne va pas bien, il va rester toujours mal? Vous croyez que Dieu est capable de le rejoindre et de le fortifier? C'est pour ça que l'on prie, pour que Dieu dirige. Il veut rétablir le contact. Il veut redonner sa vie. Mais il faut recevoir. Recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Je vais dire un pléonasme. Recevoir, c'est recevoir. Je n'ai pas fait beaucoup d'études. Mais recevoir, c'est recevoir. Recevez mes instructions et vous trouverez. Toute la Bible nous montre qu'il faut prendre. Quand l'église de Laodicée ne va pas bien, Jésus dit, mais je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Afin que tu reçoives. Je te conseille d'acheter des vêtements blancs afin que la honte d'unité ne paraisse pas. Je te conseille d'acheter du collyr pour oindre tes yeux afin que tu ne sois plus un aveugle. C'est tout le temps afin de recevoir. Recevez-vous, mes frères et sœurs. Est-ce que vous recevez la grâce de Dieu? Lorsqu'on prend le joug du Seigneur, prenez mon joug, par mon joug est doux. Prendre, c'est recevoir. Et il y a beaucoup de textes dans la Bible qui nous parlent de recevoir. Quand il est dit dans Ésaïe 55, achetez de l'or sans rien payer. Il dit, achetez et votre âme se délectera. Écoutez et votre âme vivra. Ces verbes actifs, ce sont des verbes actifs, il faut comprendre. Ça nécessite une réaction de notre part. Ça nécessite un acte de foi. Quand Jésus dit, demandez, qu'est-ce qu'il ajoute? Et vous recevrez. Il n'a pas dit plusieurs fois, quiconque demande, reçoit. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Si vous doutez qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Mais mes frères et sœurs, bien sûr qu'il y a, il dit à un moment donné, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. On revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le but de satisfaire nos passions. Parce que le monde est là. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Dieu veut que nous recevions. C'est le premier intéressé. Il est plus intéressé que vous à ce que vous prospériez. Vous pensez que si vous prospérez, c'est vous le premier bénéficiaire. Ce n'est pas vrai. Si vous prospérez, le premier bénéficiaire, c'est Dieu. À moins que vous soyez un égoïste. Alors ça c'est autre chose, à moins que vous soyez avare, etc. Mais moi je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu, même si nous sommes dans des temps difficiles, il peut faire prospérer un homme, une femme, un foyer, dans tous les domaines. Dieu veut que nous recevions. Quand les disciples étaient complètement désappointés, encore le jour de la résurrection, enfermés dans la chambre haute, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est arrivé avec un bâton en leur disant, eh bien, si j'avais su, j'aurais gardé le fouet le jour du temple. Non? Qu'est-ce qu'il leur dit? Que la paix soit avec vous. Il souffle sur eux et il ajoute, recevez le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on reçoit en ce moment? Est-ce que je reçois depuis ce matin? Est-ce que je reçois par la foi quelque chose? Est-ce que cette prédication me permet d'avoir un déclic et de dire, mais je réalise, il faut que je reçoive tout à nouveau sa paix. Sa paix déjà. Dans la Odyssée, lorsqu'il dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et il réitère, et il recommence, et je frappe, et si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai, et je souperai avec lui. Il ne va pas encore que donner de l'or et des vêtements et du collyre. Il dit, c'est pas fini, j'ai encore de la nourriture. Vous croyez que les provisions de Dieu, vous croyez que le ministre de l'économie dans le ciel, il s'affole? Vous croyez que les ruisseaux de Dieu sont pleins? Qui croit vraiment que dans le ciel, il y a tout ce qu'il faut? Tout ce qu'il faut pour nous aujourd'hui et ce qui est spirituel se concrétise d'une manière matérielle. Ça ne peut pas rester dans le spirituel. Vous comprenez ce que je veux dire? L'argent, il n'est pas spirituel. Vous comprenez? Je te donne 200 euros spirituels. Tiens, mais attendez. Non, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mes frères et sœurs, demandons au Seigneur. La volonté de Dieu, c'est de donner. Pourquoi Dieu est là ce matin? Pour bénir. Si vous êtes perdu, pour vous sauver. Si vous êtes chrétien, pour que vous receviez. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront. Et je termine avec ce verset du psaume 73. On peut le lire ensemble. Là, c'est l'apothéose. Là, c'est plus nous qui recevons. Regardez avec moi. C'est encore mieux. Ça, c'est le top. Le psaume 73. C'est comme la paix, on la reçoit pour la donner, mais là c'est encore mieux. Dans le psaume 73, après une longue expérience, Asaph a compris. Et il dit ceci, verset 23. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Vous voyez, c'est plus le gars qui pense à la prospérité. Il est plus dans la spirale, dans l'obsession de la prospérité. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras. Vous voyez, après avoir reçu sur la terre, c'est lui qui nous recevra dans les cieux. C'est bien comme programme ? Puis tu me recevras dans la gloire. Vous le croyez ça ? Que Dieu vous recevra dans la gloire ? Quelle affaire si nous nous sommes appliqués à ça, à ne pas faire en sorte que l'œuvre de Dieu repose sur un noyau, sur un comité, sur quelques frères, sur quelques sœurs, que les réunions de prière ne reposent pas que sur quelques-uns, mais que tous nous puissions dire, il faut que je reçoive. Parce que c'est bien joli de vous dire, voilà, il faut donner, il faut donner, il faut donner. Mais on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et si vous recevez beaucoup de paix, est-ce que ça va beaucoup vous coûter de donner la paix ? Vous le ferez comment ? Mais sans vous en rendre compte. Et c'est valable pour toutes les vertus. Si vous recevez, vous donnez. Si vous recevez pour garder, ça va craquer. Mais si vous recevez les vertus, la grâce, l'abondance, la vie de Dieu, des fleuves d'eau vive couleront sur la ville de Toulouse. Et déjà envers nous, les uns envers les autres, c'est déjà pas mal de se bénir les uns les autres dans une église. Voilà, on ferme les yeux. Je sais qu'il y a un chant qui est un chant de la chorale. La chorale, si vous voulez discrètement vous avancer, je voudrais qu'on reste tous les yeux fermés, à part les choristes, bien sûr. Hein. S'il vous plaît, je voudrais faire un appel. Qui c'est qui ne reçoit plus ? Qui c'est qui ne reçoit plus dans ce lieu ? Qui c'est qui essaie, comme cette veuve résignée, abattue ? Là, plusieurs de nos frères et sœurs devraient être là ce matin. Ils ne sont pas venus tellement ils sont desséchés, résignés. Voilà ce qui se passe. Le diable a fait son œuvre et des croyants rétrogrades parce qu'ils n'ont pas reçu. C'est pas qu'ils n'aimaient pas Dieu, mais c'est comme une plante. Lorsqu'elle n'est plus arrosée, elle finit par sécher. Oui, nous allons écouter ce cantique. Avant de chanter ce cantique, je voudrais demander à ceux qui se sentent secs, ceux qui se sentent résignés, ceux qui sont fatigués comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, comme les apôtres dans la chambre haute. Si quelqu'un dit « moi j'ai besoin de recevoir », faites un acte de foi. Je veux prier pour ceux qui vont se lever à leur place. Dieu a un fleuve. Il a un fleuve. Il n'a rien à voir avec la sécurité sociale, je vous le dis. Le fleuve de Dieu, il est plein. Il est plein d'eau. Et il se déverse dans ceux qui ouvrent leur cœur. Si tu étais attentif, ton bien-être serait comme un fleuve. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je prie pour lui ? Qui se sent sec ? Ne vous sentez pas jugé, affaibli ? Sentez-vous touché par Dieu ? Il veut vous rejoindre. Levez-vous à votre place. Il y a quelqu'un qui dit, moi je veux ce matin faire un acte de foi, me replonger dans la parole, retrouver l'onction, retrouver la vie. N'hésitez pas à le faire. Je vais prier simplement et je crois que Dieu le fera. Un frère s'est levé, peut-être il y a quelqu'un d'autre qui désire se lever. Oui, Dieu vous voit, c'est sérieux. Vous ne vous levez pas pour vous lever. Vous vous levez devant Dieu comme l'apôtre, le disciple qui a dit, reste avec nous. Seigneur, je veux être rafraîchi. Je veux être restauré. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il nous parle de temps de restauration, de rafraîchissement, c'est qu'il veut le faire. Je vais prier pour ceux qui se sont levés. Et je vous encourage à vous plonger dans sa parole. Et des fleuves d'eau vive couleront de votre vie. Seigneur Jésus, quelle grâce d'être à tes pieds. Quelle grâce n'avons-nous pas d'avoir ta parole et de pouvoir la méditer, de pouvoir vraiment réaliser tout ce que tu veux nous donner. Oui, tu aimes donner. Tu donnes à celui qui te demande. Tu ouvres à celui qui frappe. Tu conduis celui qui cherche. Et ce matin, nous élevons la voix avec des actions de grâce. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci de déverser ta vie dans le cœur de tous ceux qui viennent de se lever. Délivre-les, peut-être de la paresse. Délivre-les de ce qui empêche cette vie de couler. Aide-les. Tu as dit dans ta parole que tu nous aiderais, que tu étais notre aide. Alors aide mes frères et sœurs. Et que cette église soit véritablement envahi de ces fleuves d'eau vive, que le fleuve du ciel descende sur Toulouse, que les cieux s'ouvrent, Seigneur, que le ciel des reins soit brisé et que les flots coulent sur Toulouse pour rafraîchir tous ces gens qui sont en train de mourir. Seigneur, libère ce fleuve, libère-le dans l'église au travers des vases que nous sommes, et que tout ce qui est brisé soit réparé, que tout ce qui est malade soit guéri, que tout ce qui est tordu soit redressé par la puissance du Saint-Esprit. Oui, nous croyons qu'il est un fleuve dans le ciel qui coule sur la terre. Oui, tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes. Que ton nom soit béni, mes frères et sœurs, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous restons recueillis pour écouter ce cantique. Cet après-midi, ça sera une autre prédication. La chorale sera là de nouveau. Et je voudrais expliquer cet après-midi comment retrouver la grâce de Dieu. Comment la retrouver pour ceux qui l'ont perdue, justement. Que le Seigneur soit béni.